On passe à la présentation suivante. Astrid, c'est toi, OK. Intitulé Optimisation du traitement de l'imagerie par faisceau d'ions.
Merci d'avoir accepté ma présentation qui porte sur mes travaux de thèse donc qui ont été menés au Centre de recherche et de restauration des musées de France, en collaboration et cofinancés par EDF R&D, et en particulier la Fondation EDF, et qui avait pour objectif donc d'optimiser dans le sens accélérer et améliorer le traitement d'imagerie par faisceau d'ions. Et une des applications que je vais présenter aujourd'hui, c'est l'application au dépôt présent sur les vitraux de Notre-Dame. Donc tout d'abord, tout le monde a entendu parler de l'incendie du 15 avril 2019, qui a mené à une grande campagne en vue de la restauration et de la réouverture de la cathédrale en décembre dernier. Et donc pendant ce chantier de restauration, s'est mené en parallèle un chantier scientifique, notamment un chantier scientifique sur les verres mené par Claudine Loisel, du LRMH, Laboratoire de recherche des monuments historiques, qui avait pour objectif de mieux comprendre les vitraux du 19e et du 20e siècle dans la cathédrale. Et les vitraux que nous avons spécifiquement étudiés sont les vitraux des béotes présents à la croisée des transepts, qui sont donc des vitraux du 19e siècle, qui ont été mis pendant la restauration de Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus. Le peintre verrier qui les a faits est Maréchal de Metz. Donc l'intérêt d'étudier en particulier ces vitraux de la croisée des transepts, c'est leur proximité avec le foyer de l'incendie, notamment. Donc un vitrail est constitué et fabriqué à partir d'un mélange de sable et de fondant. Donc fondant qui permet de diminuer la température de fusion de la silice, pardon, de façon à obtenir un verre coloré en ajoutant des oxydes métalliques. Donc là, vous pouvez voir une image d'un vitrail et avec un petit zoom qui permet de mettre en avant le verre, les pièces de verre qui sont reliées entre elles par un réseau de plomb, mais qui ont par-dessus une couche de peinture qui permet de faire les décors, les formes, qui sont appelées des grisailles. Donc c'est des peintures à base d'oxyde métallique. Et donc on se retrouve avec un objet qui est composé d'une stratigraphie, donc une grisaille à poser sur un verre. L'ensemble est en cuit. Mais suite à l'incendie et surtout depuis la mise en place des vitraux au XIXe siècle dans la cathédrale, il y a une couche de dépôt qui a été donc déposée, avec des particules atmosphériques qui ont été déposées sur les vitraux, de façon à avoir une troisième couche de dépôt sur les grisailles, sur le verre. Donc on a un objet complexe, hétérogène, stratifié, qui a tout un tas de caractéristiques assez compliquées à considérer pour analyser le matériau. Donc les questions qui se posaient, c'était est-ce qu'il est possible de retracer la chronologie de déposition des particules atmosphériques, mais aussi de représenter l'épaisseur et la composition du décor sous-jacent. Donc pour cela, on essaye de déterminer quelle est la composition chimique élémentaire de ce matériau, et on a les problématiques suivantes, que sont l'hétérogénéité du matériau, le fait qu'il soit stratifié, et pour lequel le prélèvement était impossible. Donc c'est pour ça que nous avons utilisé des analyses par faisceau d'ions, qui sont des techniques d'analyse particulièrement adaptées pour répondre à ces questions, en tant qu'analyse non invasive et non destructive. Donc pour ce faire, on a utilisé l'accélérateur Grand Louvre d'analyse aimantaire, donc AGLAE, qui est devenu New AGLAE en 2017. C'est le seul accélérateur de particules 100% dédié à l'analyse du patrimoine. Et donc les analyses sont faites à ce niveau-là, en faisceau extrait, à l'air libre, de façon à pouvoir déterminer la composition chimique à l'aide des détecteurs PIX, qui vont venir détecter les rayons X émis par le matériau sous l'impact du faisceau. Et aussi, on va pouvoir détecter les ions rétrodiffusés par une deuxième technique qui s'appelle le RBS. Donc les questions qu'on a essayé de mettre en... de répondre, c'était plutôt est-ce qu'on peut combiner donc ces deux techniques, PIX et RBS, de façon à pouvoir mieux comprendre le matériau. Donc la première étape du PIX, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va pouvoir déterminer la composition chimique élémentaire. On a plus ou moins chacun des pics qui correspond à un élément chimique dans ce signal, avec deux détecteurs qui vont du coup permettre de voir deux zones du spectre pour spécifier par exemple sur des éléments présents en majorité, les en basse énergie, ou les éléments présents plus de façon comme des traces, donc en plus petite quantité avec les détecteurs haute énergie. Donc là, on a une composition chimique élémentaire globale, donc qui ne va pas voir les différentes strates à l'intérieur du matériau. Tandis que la deuxième technique, la technique ABS, va quant à elle pouvoir spécifier ces différentes strates et on obtient un spectre qui a une forme complètement différente, de façon à déterminer un profil de concentration en profondeur, puisqu'elle va nous permettre de comprendre la composition chimique et élémentaire, mais aussi à quelle profondeur l'élément a été percuté, de façon à pouvoir reconstruire donc le profil de concentration en profondeur. Donc, ce qu'on fait régulièrement, c'est des analyses dites ponctuelles. Ici, on a juste dépiqué une pièce de verre du vitrail, puisque c'était une pièce de verre où il y avait un fort taux de plomb à la surface. Donc, pour éviter de contaminer tout le système, on a dépiqué cette pièce et on a fait des analyses au départ ponctuelles, représentées ici. Et si on fait une analyse ici ou là ou encore ici, on va avoir une réponse totalement différente puisqu'il ne sera pas donc représentatif du matériau. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est une analyse 2D de façon à balayer une certaine zone pour avoir une représentation qui soit donc moins biaisée et plus donc représentative du matériau analysé. Néanmoins, le gros problème que ça pose, c'est qu'on va avoir rapidement une grande base de spectres. Ici, on a, bon, c'était une petite zone analysée, mais on a quand même 3200 spectres PIX basse énergie, 3200 spectres PIX haute énergie et 3200 spectres RBS, donc quasiment 9000, du moins quasiment même 10000 spectres à analyser. Donc si on le faisait à la main, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Donc l'objectif, c'était de voir s'il y avait justement des outils d'intelligence artificielle qui nous permettaient d'accélérer ce traitement. Et donc dans le cadre de la thèse, on a conçu une méthodologie pour accélérer et automatiser le traitement d'imagerie IBA, donc imagerie par faisceau d'ions. Tout d'abord sur des éprouvettes de référence pour s'assurer que déjà ça fonctionnait sur des éprouvettes parfaitement connues. Et on l'a appliqué ensuite aux objets du patrimoine, que sont les vitraux Notre-Dame et en particulier les dépôts présents sur les vitraux. Donc tout d'abord, on part du cube de données spectrale PIX et du cube de données spectrale RBS. Et l'objectif est de reconstruire la répartition spatiale des dépôts en profondeur. Donc pour ce faire, pour améliorer et surtout accélérer le traitement, ce qu'on a cherché à faire, c'est regrouper l'ensemble des spectres qui avaient la même forme, qui se ressemblaient, pour pouvoir se dire, ces spectres se ressemblent, donc je peux le traiter comme étant un seul et même spectre. Comme ça, on va artificiellement diminuer facilement ce nombre de spectres au total à créer, à traiter. Donc c'est pour ça qu'on a différentes étapes, une étape de pré-traitement, une étape de regroupement des pixels, donc des spectres en clusters, et enfin l'interprétation des spectres issus de ces différents clusters. Donc ça a été fait sur des éprouvettes de référence pour les spécialistes des matériaux, qui sont où on avait des couches très discrètes, donc, et avec des éléments chimiques très différents les uns des autres, mais qui sont finalement assez éloignés de ce qu'on peut avoir pour du point de vue histoire des techniques, où on a des questions de porosité, avec une feuille d'or où on va pouvoir voir à travers un peu l'argile, ou sinon des gradients de concentration et de la rugosité pour des couches de peinture, comme les grisailles, à la surface d'un verre. Donc, une fois qu'on a testé donc, les différents algorithmes sur ces deux types d'éprouvettes, je les présente ici dans le cas concret des dépôts présents sur les vitraux de Notre-Dame de Paris. En particulier, je vais représenter étape par étape les différents points de la méthodologie. Tout d'abord, la combinaison des données. On va combiner deux modalités, les analyses PIX, donc basse énergie et haute énergie d'une part, avec les analyses RBS d'autre part, de façon à créer un nouveau spectre qui n'a aucune signification physique, mais qui a l'avantage de contenir l'information provenant des différents spectres PIX, haute énergie et basse énergie ici, et RBS à la fin. Donc on va avoir dans chacun des pixels l'information qui provient de chacune de ces techniques, de façon à créer un nouveau cube de données. Et c'est ce cube de données-là qu'on va traiter par la suite. Néanmoins, donc oui, ça nous permet de considérer l'ensemble de ces techniques simultanément quand on va faire le traitement de données. Néanmoins, on se retrouve avec 2500 canaux ici, donc 2500 dimensions, ce qui est énorme pour du traitement de données. Donc la première étape est une réduction dimensionnelle, où on va passer donc de cet espace de n dimensions, 2500, où les variables sont corrélées, redondantes, où donc il y a une bonne partie de l'information qui ne sert pas à grand-chose. Et ce qu'on cherche à faire, c'est visualiser cet ensemble de données en 2 à 3 dimensions, de façon à mettre en avant les informations pertinentes et les hétérogénéités présentes à l'intérieur du cube de données de départ. Mais cette transformation doit se faire en préservant à la fois les structures globales et locales des données, pour s'assurer que la réduction en 2 à 3 dimensions soit bien fidèle aux données de départ qui étaient dans l'espace de 2500 dimensions. Donc on a testé différentes techniques, différents algorithmes de machine learning, et on a mis en évidence que c'était l'algorithme UMAP qui fonctionnait le mieux. Néanmoins, une fois qu'on a choisi cet algorithme, on a encore tout un tas d'hyperparamètres à fixer pour répondre à notre problématique. Et donc, on a mis en place des critères de sélection, notamment la comparaison des données réduites à la carte du taux de comptage. La carte du taux de comptage, c'est en fait l'air sous la courbe qu'on a pour chacun de nos pixels. Et c'est notre seule forme de vérité terrain, puisque là, l'objet, il est impossible de prélever. Donc on n'avait pas moyen d'avoir une image vérité terrain pour l'ensemble de cette zone. Donc c'est notre substitut, afin de s'assurer d'avoir une préservation de la structure globale des données. Et un deuxième critère, c'est un critère de mesure de qualité qui, lui, quant à lui, est chiffré avec un critère de corrélation des distances pour la préservation des structures globales et de fidélité pour la préservation des structures locales des données. Donc c'est ce qu'on a fait pour obtenir ce nuage de points avec les différentes valeurs d'hyperparamètres qu'on a choisi justement pour maximiser la corrélation des distances et la fidélité. Donc une fois qu'on a ça, on a des données en trois dimensions qu'on peut représenter autrement en représentant les données selon la première composante, l'axe X en rouge, la deuxième en Y en vert et la troisième Z en bleu, de façon à créer une image RGB qui va contenir l'ensemble des trois premières composantes. Et donc cette image, on peut la comparer à la carte du taux de comptage, notre vérité terrain, où on s'aperçoit qu'on a presque plus d'informations dans l'image RGB à la fin, puisqu'on met en avant certaines zones que l'image de taux de comptage commençait à voir apparaître, mais ne le faisait pas apparaître distinctement. Donc cette méthodologie nous permet d'avoir une sélection pertinente des valeurs des hyperparamètres pour UMAP, préservant à la fois les structures locales et globales des données, et c'est une étape importante de validation de l'utilisateur dans toutes les étapes de la méthodologie pour s'assurer justement qu'on ne part pas dans une mauvaise direction. Donc la deuxième étape, c'est en se basant de cette image RGB, chercher à faire une approche spatiale spectrale, donc une approche de segmentation, pour rassembler justement ces différents pixels en cluster. Donc on a testé différents algorithmes. QuickShift était celui qui fonctionnait le mieux sur nos types de données, sur les éprouvettes, et donc on a utilisé après sur les données patrimoniales, où là, encore une fois, on a des hyperparamètres à fixer, et on a utilisé la même méthodologie que pour UMAP. On va comparer la segmentation à la carte du taux de comptage, et aussi des critères chiffrés de mesure de qualité. Cette fois-ci, est-ce que le cluster est homogène? Donc on va minimiser la variance à l'intérieur de ce cluster. On va s'assurer que les clusters soient suffisamment séparés pour pas qu'il y ait de chevauchement, et donc de clusters qui étaient artificiellement fusionnés. Et des critères classiques de segmentation qui seront le critère d'information d'Akaike et le critère d'information bayésien. Donc une fois qu'on a ces meilleurs scores, on obtient cette segmentation présentée ici, où là, on n'a plus que 7 zones réellement représentatives de tout notre ensemble de données, donc 7 clusters plutôt que les 3200 x 3 techniques qu'on avait, du moins que les 3200 pixels qu'on avait jusqu'à présent. Donc on a une étape qui nous permet encore une fois de choisir pertinemment les hyperparamètres. On a mis en évidence les hétérogénéités au sein de la zone analysée, puisque là on voit par exemple qu'il y a des clusters en vert qu'on voyait à peine sur la carte du taux de comptage, mais qui, si on s'était basé seulement sur cette carte, on n'aurait pas pu aller plus loin. On passe de 3200 spectres pour chacune de ces techniques à seulement 7 spectres caractéristiques, donc on n'a plus que 7 spectres à traiter par la suite, ce qui nous permet d'accélérer le temps de traitement. Et on a aussi une étape de vérification de l'attribution des pixels au cluster en traçant un cadre de vraisemblance, donc c'est-à-dire la distance entre le spectre estimateur, ici le spectre médian du cluster bleu par exemple, et l'ensemble des spectres présents dans le cluster bleu. Donc l'ensemble des spectres bruts présents dans le cluster bleu. La dernière étape est donc l'étape d'interprétation des spectres, où grâce à la technique PIX, on va pouvoir déterminer la concentration chimique élémentaire ou en oxyde. Et avec l'analyse RBS, on va pouvoir déterminer le profil de concentration en profondeur. Donc là, j'ai superposé les différents spectres PIX et RBS. Vous pouvez vous apercevoir que lors de la superposition des spectres PIX, il n'y a quasiment aucune différence entre l'ensemble des spectres. Donc ce n'est pas la composition chimique qui va vraiment influencer la segmentation finale, mais plutôt ici les différents spectres RBS, avec notamment des grandes différences en particulier sur le spectre bleu et vert, qui donc la technique nous permet de comprendre les différences de stratigraphie. Donc là, j'ai mis un rappel. Donc on a une couche de dépôt sur une couche de peinture sur une couche de verre. Et on va pouvoir, en traitant ces spectres, visualiser la répartition spatiale des épaisseurs de dépôt à la surface de la peinture. Et de façon encore plus intéressante, de visualiser aussi la répartition spatiale des épaisseurs de peinture sous les dépôts. Donc sans prélèvement, on va pouvoir visualiser la répartition de la peinture sans enlever donc la couche de dépôt à la surface. Ce qui nous permet de mettre en avant qu'il y a une adhérence des dépôts sur une topographie particulière, puisque là, on a justement plus de dépôts au même endroit que là où l'épaisseur de peinture est la plus importante. Et ça nous permet donc, à la fois, ce que je disais, de représenter visuellement la répartition spatiale des épaisseurs, mais aussi de déterminer la stratigraphie sans prélèvement. Quand on regarde plus spécifiquement les dépôts, et non plus les dépôts sur la peinture sur le verre, on va pouvoir... Bon, là, c'est un tableau qui est difficilement digérable, mais on va pouvoir voir les différentes strates, les différentes couches, avec, si on regarde de droite à gauche, une interface entre le verre et l'atmosphère, puis une couche issue de la contribution des dépôts atmosphériques, donc toutes les particules qui se sont déposées sur le vitrail depuis leur mise en place au XIXe siècle. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que à la suite de l'incendie, c'était la première fois que les vitraux étaient déposés. Donc en fait, on avait vraiment une sauvegarde de l'ensemble des dépôts qui avaient été faits depuis leur mise en place au XIXe siècle dans la cathédrale. Donc on a tous les dépôts issus des révolutions industrielles, de la pollution, mais aussi une couche importante de carbone issue de la suie des cierges qui ont brûlé dans la cathédrale. Et on peut mettre en avant les dépôts issus de l'incendie spécifiquement, en retraçant la chronologie avec le carbone issu des premières fumées, mais aussi une couche de silicium, de soufre et de chlore, en particulier quand la flèche s'est effondrée dans la cathédrale et qui a déplacé de la poussière. Et enfin, une couche de plomb avec les projections, justement, lorsque la flèche est tombée. Donc, grâce à cette méthodologie, on peut aussi retracer la chronologie de déposition des particules atmosphériques depuis la mise en place des vitraux en 1860 et jusqu'à l'incendie. Donc, cette méthodologie a été créée pour traiter notamment les données de Notre-Dame, en particulier des dépôts, mais permet d'autres applications, telles que de voir des différences de granulosité, de type de peinture, donc de type de grisaille, mais aussi de distinguer différents outils d'application pour ces grisailles, le lavis, le blaireau, le putois, etc. De mieux comprendre des couches de colle, par exemple, qui permettent de faire adhérer une dorure sur un verre, et ça sans prélèvement. Et aussi de mieux comprendre les profondeurs de pénétration du jaune d'argent et nanoparticules d'argent pour le jaune d'argent et pour le lustre, qui vont provoquer différentes couleurs qui seront vues. Donc cette méthodologie est adaptée aux matériaux stratifiés qui a été appliquée pour la première fois à la combinaison des imageries PIX et RBS, mais on pourrait imaginer que ce soit combiné à d'autres techniques d'imagerie. Donc elle a été élaborée et validée sur des matériaux de référence afin d'exploiter des cubes de données spectrales. Elle a été appliquée sur ces dépôts des vitraux de la cathédrale de Notre-Dame de Paris en mettant en avant ces deux résultats particuliers. Et c'est surtout qu'on l'a mise en œuvre de façon qu'elle soit transposable à d'autres objets du patrimoine qui présentent des stratigraphies fines et complexes, comme notamment juste l'étude de la peinture à la surface des vitraux. Et donc il y a différentes perspectives qui correspondent à chacune des étapes de la méthodologie, notamment des questions de fusion de données. Quand on a des imageries provenant de différentes modalités, comment les considérer, comment les combiner? Et on a une grande phase de traitement à améliorer en utilisant notamment des réseaux neuronaux pour accélérer le traitement des spectres RBS de façon à avoir une méthodologie qui nous donne quasiment instantanément la stratigraphie de la zone analysée. Et la dernière étape, c'est de vérifier les incertitudes propres à chacune des sous-étapes. C'est quand même un grand travail. Merci pour votre attention.
Merci. Question ? Sur les différentes étapes, donc chaque étape peut potentiellement induire une erreur. Et donc, c'est cumulatif.
Oui.
Et donc, vous avez regardé un petit peu ça ou pas ?
En fait, il y aurait déjà un énorme travail à faire sur les incertitudes liées au montage, donc à l'acquisition des données de départ. Donc, tant qu'on n'a pas fait cette partie-là, essayer de prédire des incertitudes sur les différentes sous-étapes nous paraissait c'est un peu trop tôt pour le faire. Donc, la première étape, voilà, ça serait déjà de déterminer les incertitudes propres au montage et donc pour les analyses 1D, pour après les propager aux analyses 2D et après aux différentes étapes du traitement de la méthodologie.
Vous avez mentionné réseau de neurones, donc parce que vous êtes parti de données synthétiques que vous avez créées sur les premières parties, là. Et in fine, vous avez une pseudo-vérité terrain que vous avez créée vous-même.
Là, dans le cadre de la méthodologie que j'ai présentée ici, il n'y a pas de spectre simulé. C'est vraiment les spectres acquis sur la grande surface qui a été analysée.
D'accord.
Mais en fait, il y a certains matériaux qui passent régulièrement à l'accélérateur, par exemple des feuilles d'or sur un verre. Donc, une des questions serait justement entraîner un réseau neuronal à modéliser facilement cette épaisseur de feuille d'or pour dès qu'il y a une feuille d'or qui soit analysée, pouvoir déterminer quelle est l'épaisseur.
D'accord.
Et donc, mais ça sera adapté à chacun des nouveaux matériaux analysés.
D'accord. Très bien. Merci encore pour la présentation.